Griffe.
Les cultures bites.
Les cucurbitacées, présentées par Aurélie.
Il a tout juste connu les années 80, il est jeune, il est suisse, sur son menton quelques poils fraîchement rasés, et la fossette de ceux qui réfléchissent à longueur de journée. À 25 ans, Quentin Mouron a publié 4 romans. Le quatrième s'appelle « Trois gouttes de sang et un nuage de coke », un roman noir, franchement génial, qui nous entraîne comme un rail de coke jusqu'à la dernière page. Aujourd'hui, Quentin Mouron est l'invité des Cucurbitacées. Bienvenue. Salut Quentin Mouron.
Hello.
Cette semaine, c'est la sortie de ton quatrième roman. On se sent comment dans une semaine comme ça ?
Et déjà, je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui. J'ai des doutes sur le propre jour de la parution de mon livre. C'est pas que ça ne fait pas très sérieux, mais c'est que j'ai été tellement absorbé que je n'ai pas eu le temps d'aller, comme les autres années, en librairie, voir s'il était bien placé, à quoi il ressemblait. Donc oui, c'est vrai que c'est une des sorties de livres les plus absorbantes là, pour l'instant, où je cours un peu partout. Mais on se sent bien. On se sent, forcément, quand on écrit un bouquin, c'est des longues heures de solitude, c'est des longues heures de doute aussi. Et puis quand il sort, et ben c'est l'occasion enfin de respirer, de voir des gens, ce qui n'est pas toujours le cas quand on écrit. Et puis aussi d'être conforté, puisque vous venez d'avoir des très bons mots sur mon livre. Je suis très content. Puis d'autres ont eu des mots beaucoup plus durs. Et puis ça fait partie aussi du jeu, et je m'en réjouis.
Quentin Mouron, il y a 3 minutes, en entrant dans nos studios, t'as touché pour la première fois l'objet que ton éditeur visiblement t'a pas encore envoyé. Ça fait quoi ce moment-là?
Et c'est c'est difficile à dire. La toute première fois, évidemment, c'était encore plus marquant quand on était exactement pour au point d'effusion des égouts, parce que c'était la première fois que je voyais mon nom marqué sur un livre. Ça faisait étrange. Là, c'est toujours assez bizarre. C'est toujours, et puis en même temps, c'est angoissant parce qu'on se dit, mais tiens, j'espère qu'il reste pas des coquilles. J'espère que dans 2-3 semaines, je vais pas le relire ou parcourir des passages puis me dire, ah, mais là, j'aurais quand même pu changer ça ou enlever ça. Donc c'est un petit moment d'angoisse. Ouais.
Quentin Mouron, on aurait bien voulu parler de ton roman pendant 2 jours. Il y aurait eu de quoi. Mais la loi est stricte. Dans les Cucurbitacées, 1 heure d'émission et l'obligation en plus pour l'invité de nous soumettre des sujets de chronique. Tu l'as fait. Léonie et Mike te donnent un avant-goût de ce qui t'attend.
Les Cucurbitacées.
La rédaction veut te parler.
Salut Quentin Mouron, c'est Mike. Tu nous as demandé de parler du dernier album de Marilyn Manson, The Pale Emperor, et ça a été un peu une bonne surprise. Prenez vos petits crayons blancs, on va se maquiller pour Marilyn. Poupoupidou, ouh !
Salut Quentin, c'est Léonie. Dans la liste de tes instructions pour le contenu de cette émission, il y avait la mention suivante « Philippe Soupeau, le surréaliste mal aimé ?» point d'interrogation. Alors mal aimé, je ne sais pas, mais en tout cas méconnu. Il est clair que lorsqu'on parle du mouvement, ce n'est pas le premier nom qui vient à l'esprit. Tout à l'heure, je vais donc rendre à Soupeau ce qui est à Soupeau, et tenter d'expliquer pourquoi on l'oublie si facilement.
Du surréalisme, Marilyn Manson et 3 gouttes de sang et un nuage de coke, ton roman, Quentin Mouron, c'est ce que vous aurez ingéré d'ici 1 heure, le deal te convient ?
Oui, ça va, ça devrait être faisable.
Ok, on y va.
Les Cucurbitacées.
Quentin Mouron, l'auteur vaudois, est avec nous pour causer de son nouveau roman, un roman noir et un roman américain qui s'appelle 3 gouttes de sang et un nuage de coke.
Griffe. Les Cucurbitacées.
On est dans la banlieue de Boston en 2013, après la crise. Un vieux, sans trop de problèmes, est retrouvé mort dans son pick-up. Et là, il y a une double enquête qui commence.
Ça commence de manière assez classique. Je pense que les lecteurs qui lisent les premières pages doivent pas être trop désarçonnés. Ils se retrouvent dans un décor typique, un décor de roman américain typique, avec un meurtre, avec un petit quartier qui est esquissé, avec quelques personnages, quelques silhouettes inquiétantes qui se dessinent. Et puis c'est qu'au bout de 2 ou 3 chapitres que là on commence à entrer dans quelque chose qui n'est plus simplement le roman policier ou l'intrigue, mais qui est un véritable roman littéraire, enfin avec des interrogations, avec une réflexion, avec un style aussi, avec des personnages qui tranchent quand même par rapport à ceux qu'on peut lire dans la plupart des polars.
Alors on a 2 enquêteurs. D'abord le shérif, enquêteur traditionnel qui va enquêter sur ce meurtre, et puis un enquêteur en parallèle, Frank, qui est le personnage principal du roman.
Oui, voilà, exactement. Je pense que le premier personnage est de facture assez classique, le shérif. Et puis même s'il y a des angoisses qui tranchent un peu avec les angoisses habituelles, en général c'est assez simple. Hein. Dans un polar, le flic qui mène l'enquête est toujours alcoolique, il est toujours en bisbille avec sa hiérarchie, et puis il est divorcé en général, et puis il se bat pour la garde de ses enfants, ça permet de faire une histoire parallèle. Bon, c'est pas tout à fait le cas de ce shérif-là, donc on est quand même un peu déjà dans quelque chose d'autre. Mais le personnage de Frank, c'est vrai, détonne. Déjà, il a une sorte de passion pour la littérature fin de siècle, ce qui détonne forcément au milieu de Boston. Et puis, en même temps, il est complètement cocaïnomane. Il est peut-être fou, il est peut-être dangereux, il est peut-être malade. On ne sait pas trop. On reste dans le flottement. Lui-même s'interroge, se pose des questions sur sa propre personne, se pose des questions sur le monde qui l'entoure. Et puis, on partage ses pensées. On est au plus près de lui pendant toute la durée du récit.
Et ce qui donne un rythme aussi au roman, c'est qu'il court de manière effrénée à travers les nuits et la cocaïne, forcément. T'as l'impression que c'est comme ça qu'il faut vivre, à fond et avec un peu de coke s'il faut.
Oui, sans doute. Je pense, oui, que c'est comme ça qu'il... Alors, mais moi, je donne pas de leçons de vie, parce que sinon, je retomberais, je serais plus du côté de Franck, je serais plutôt du côté du shérif, si je commence à donner des leçons de vie et à me bombarder moraliste. Donc, pour moi, c'est pas le but non plus. Il y a pas de... Je pense qu'un livre, justement, ne doit pas donner des leçons, ne doit pas... toute la littérature dite engagée, c'est souvent un peu décevante, parce que l'engagement, finalement, il se trouve souvent par des chemins détournés. Donc, je pense que, pas qu'il y a il n'y a pas une leçon à retenir. Je pense que c'est plutôt une interrogation, c'est une question, c'est des questions lancinantes qui sont posées par les deux personnages, par le shérif, par Franck, et puis bien entendu, par tous ceux qui leur gravitent autour.
On sent aussi dans ton roman une ambiance pesante, celle des années 2010, après la crise de 2008. Qu'est-ce qu'elle te dit à toi, cette période-là ?
Oui, je crois que c'est angoissant. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis plus angoissé, parce que peut-être j'ai grandi aussi. Donc, avant, j'étais peut-être moins angoissé. Je suis toujours angoissé. Donc, je l'aurais sans doute été dans les années 70, dans les années 80. Donc, mais je pense que c'est une période particulière. C'est une période où... on manque peut-être, on se plaint toujours c'est toujours un lieu commun, on perd de repères, manque de valeurs, et puis finalement on les rejette de toute façon, ces valeurs, alors autant ne pas s'en plaindre, mais c'est vrai qu'il y a certainement une sorte de vide où on a l'impression que, par l'effet aussi de l'hypercommunication, que tout le monde flotte plus ou moins et se perd et se noie et glisse, tout devient une sorte de glissement sans fin. C'est la perception que j'ai de cette époque, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre.
À 25 ans, Quentin Moron, on peut dire que tu es un auteur pessimiste ?
Oui, sûrement. Enfin, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai pas un grand amour pour les optimistes, enfin, en tout cas pas pour les optimismes. Après, les
t'énerve,
gens.
Là.
Oui, ils m'énervent un peu, mais ils sont très sympathiques souvent. Après, après quelques verres, ils deviennent déjà moins optimistes. Moi, je deviens moins pessimiste et puis on arrive à se retrouver au milieu.
Les trois gouttes de sang et un nuage de coke, un roman qui se passe en Amérique. Et c'est pas pour rien. Tu la connais, hein, Quentin Moron, l'Amérique.
Oui, j'y ai vécu. Et puis, je suis canadien aussi, donc j'ai vécu longtemps au Canada. J'ai vécu pas loin de Boston, en fait, en proximité de Montréal. Donc, oui, c'est des décors que je connais très bien. Disons, c'est pas du tout de l'exotisme. Je suis vraiment chez moi quand je parle de Boston, et je suis chez moi quand je parlais de la Californie ou du Québec. Et donc, oui.
On va en parler, justement. Mais d'abord, Marie-Luce te refait le portrait en t'adressant un morceau.
Mais les cultures, quel son tu fais quand on te retourne ?
C'est une habitude dans les cultures bitacées, on trouve un morceau qui sied à l'invité. Aujourd'hui, on pourrait plutôt dire que Marie-Luce offre un morceau à tes personnages, Quentin Moron. Tu t'attends à quoi comme ça ?
Je sais pas, j'imagine une marche funèbre terrifiante ou alors une espèce d'électro dégueulasse, je sais pas encore, je balance un peu.
Ils sont comme ça glauques, tes personnages ?
Ouais, ils ont un petit côté cheap et glauques en même temps, comme ça, qui colle bien aux deux trucs que je viens d'évoquer.
Alors peut-être Marie-Luce est plus optimiste que toi.
Les cultures bitacées.
Quentin, ton esthétique littéraire semble fascinée par le cynisme de notre société. Ce sont les personnages de tes romans qui m'orientent vers cette hypothèse. Ils sont souvent inconsistants et fiers de l'être. Ils communiquent via les réseaux sociaux, sniffent de la coke et sont capables de tuer pour un bon mot. Des êtres trash mais vides de sens. Dans la musique, personne n'a exploité le cynisme mieux que le rock industriel à mon avis. Et il ne m'a pas échappé que tu souhaitais justement parler de Marilyn Manson pendant cette émission. Moi, je te propose carrément de revenir aux pionniers du rock industriel avec les Young Gods. Comme les héros de tes œuvres, le son des Young Gods est trash, leur message n'a pas forcément de sens. Voici un de leurs titres pour toi, Quentin. Longue route. Peut-être celle qui aimerait bien échapper à ce cynisme qui nous retient en otage.
Longue route, comète, aujourd'hui est faite.
Nous avons fait longue route, donne-nous le ciel à voir. Longue route, messieurs, oh longue planète bleue. Nous avons fait long feu et nous brûlons en cours. Car la nuit est à court. Aujourd'hui est de fête. Nous avons fait longue route, jamais elle ne s'arrête. Longue route d'étoiles, regarde trop la nuit. Longue route, comète. Et la nuit est à court. À court. À
Gods, les vieux rockers fribourgeois, un morceau qui tirait bien quant à Mouron, à toi et à tes personnages, t'es d'accord avec ça?
Ça va, je crois qu'ils sont plus raffinés, mes personnages, ils ont un truc plus doux, peut-être, plus pervers aussi, peut-être moins immédiat, mais c'est très bien, ça me rappelait un peu mes écoutes de Ministry tout seul dans ma chambre, donc ça a un côté, mais je connais pas très bien les Young Gods.
Les Young Gods, culture et musicale locale, toi la musique tu la consommes plutôt locale?
Non, mais enfin, je suis pas vraiment attaché à ce genre d'étiquette-là, que ce soit pour les pommes ou les chanteurs. C'est pas vraiment ce qui me. Je suis jamais très. C'est comme quand on me dit, mais il faut soutenir. Alors, on soutient la littérature romande, mais je suis très content. Mais enfin, je pense qu'il faut plutôt soutenir la littérature et en général, et la lecture, surtout en général, aiguiser son sens un peu partout. Donc, j'écouterai pas les Young Gods parce qu'ils sont fribourgeois, mais plutôt parce qu'ils font de la bonne musique.
Et dans ton roman paru cette semaine, un de tes personnages, un auteur, dit que, en gros, hein, je paraphrase son récit, que seuls les Américains ont le secret des romans à succès. T'es d'accord avec ça, toi?
Non, mais il faut voir le personnage aussi. Hein. Il a des poches
qui
traînent jusque sur jusque sur la bouche. Enfin, il est. Non, c'est justement, c'est assez ironique, mais je pense que Non, au contraire, parfois les romans américains, moi, qu'on me pose dans les mains, on me dit tiens, tu verras, il y a un suspense fou, c'est génial. Moi, je suis tombé, là, j'ai dû poser le genre à livre. C'est rare que j'arrive plus vraiment. Alors, des fois, je pose parce que vraiment, ça me plaît pas du tout, mais parce que je suis étouffé. Là, c'était Michael Connelly l'autre jour, j'ai commencé, mais après 150 pages, c'est encore en train de tourner leur dossier au fond de leur étude d'avocat. Je dis bon, ben, je pense qu'on peut commencer, quoi. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est pas souvent. Il y a des choses très fortes dans les romans américains. Il y a vraiment, c'est vrai, un sens d'amener souvent le lecteur là où on veut, quelque chose d'assez agile et d'assez et qui marche bien. Machine vraiment bien rodée, mais c'est vrai que des fois il y a aussi une sorte de volonté documentaire qui est assez qui m'emmerde un peu en fait. Là, moi j'ai essayé de pas le faire justement. On arrive dans un commissariat, on n'a pas besoin de savoir toute l'historique de la police américaine, c'est pas si important de savoir comment fonctionnent les 16 000 services policiers américains, donc il n'y a pas besoin toujours forcément de faire un exposé devant une classe, quoi. Donc souvent je trouve que certains romanciers américains, Mac Conley en est un à mon avis, ont un peu trop tendance à vouloir expliquer le milieu, mais sans vraiment, sans profondeur psychologique, sans pénétration sociale, juste par un amoncellement de faits, d'éléments qui sont assez triviaux, à mon avis.
Tu lis de la littérature américaine, mais l'Amérique en général, tu la connais, Quentin Mouron. Tu l'as vécu, du Québec à la Californie, en passant par l'Arizona.
Exactement.
On va te demander de nous y emmener.
Les cultures bitacées.
Tu la connais, l'Amérique, quand t'es Mouron, ça ne veut pas dire que tu as été 3 mois en séjour linguistique. Tu l'as vécu, mais vécu comment ?
Ben, ça veut dire déjà, si je n'ai pas fait de séjour linguistique, ça veut dire que même après y avoir vécu 2 ans, je parle toujours assez mal l'anglais. Mais donc je l'ai vraiment vécu, je pense, de l'intérieur. J'ai déjà de la famille à Los Angeles. Je suis allé chez eux au début. Ensuite, j'ai acheté une bagnole. Je suis parti de mon côté. Donc j'ai pas mal voyagé pour mon compte aux États-Unis. Ensuite, c'est quand j'avais une vingtaine d'années. Puis c'est trouvé que mes parents ont déménagé en Californie, en fait, quand moi j'étais en Arizona. Donc du coup, j'ai pu prolonger encore mon voyage en rentrant chez papa, maman, mais en Californie, au milieu du désert. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'extrêmement profitable. J'ai pu rester beaucoup plus longtemps. Et puis je pense que j'ai vraiment, j'ai fait quelques contacts là-bas. J'ai beaucoup voyagé, mais hors circuit touristique, et puis pour moi-même, par petites touches, j'ai beaucoup profité du désert notamment, et puis d'endroits assez, je veux pas dire inusité parce qu'on y passe, mais on n'y reste pas forcément suffisamment. Des endroits, des no man's land, je pense à Bakersfield, à Trona, à d'autres bleds comme ça qui sont assez. Trona, c'est tout petit, hein, c'est presque désert, mais c'est des petits bleds oubliés comme ça, et puis c'est ce qui m'a nourri pour le premier roman. Et puis ensuite, c'est vrai, j'ai aussi, j'ai passé 10 ans au Québec avant, j'ai quand même ce côté nord-américain, j'ai une culture nord-américaine aussi qui fait que j'appréhende peut-être plus rapidement et plus facilement certains phénomènes typiquement américains.
Justement, Notre-Dame de la Merci, ton deuxième roman se situait cette fois au Québec, à 2 pas de Boston, hein, grosso modo, quelques centaines de kilomètres. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui fait du Québec un endroit radicalement différent du reste des Amériques ?
Je sais, bon, le fait qu'on parle français, c'est un lieu commun, mais c'est déjà quelque chose de pouvoir être aux États-Unis, dans une culture américaine, même si les Québécois s'en défendent, avec une langue qu'on comprend. C'est déjà, on comprend parfaitement, je veux dire, oui, je comprends l'anglais aussi, mais disons, ça a déjà quelque chose d'assez surprenant. Et puis, c'est vrai qu'il y a le Québec est quand même à la croisée de plusieurs cultures. C'est une province qui est complexe. C'est un microcosme aussi. Ils sont assez isolés sur le continent. Ça crée toutes sortes de luttes, parfois âpres, violentes et même parfois vulgaires entre Canadiens francophones, Canadiens anglophones, Québécois et Américains, Québécois et Français, Québécois. Donc, il y a vraiment une sorte de. C'est une ambiance vraiment à part, je pense, en Amérique du Nord. Et puis. C'est particulier parce que c'est aussi un climat rigoureux. Alors, quand on est à Montréal, ça va, enfin, il fait froid l'hiver, on le sait, mais disons, c'est une ville qui est assez européenne, d'ailleurs, même aussi américaine, parce qu'il y a toute une partie, je crois qu'il y a 1 million d'anglophones sur 2,5 millions d'habitants, donc c'est quand même pas rien, c'est très très cosmopolite. Tandis que quand on s'éloigne, quand on est au fond des forêts, ben là, on se rend compte qu'on est face à une nature qui est pas la petite nature enchantée où on va faire promener notre chien le dimanche, qui est une vraie nature puissante et menaçante, et donc c'est vraiment un univers à part.
Raconte-nous ce froid du fond des forêts.
Eh bien, il est moins dérangeant qu'ici parce qu'il fait très sec en fait souvent, mais par contre à moins 52, c'est vrai qu'on, ce que j'ai eu une fois, on réagit différemment, c'est-à-dire qu'on, d'une part, on ne sort plus, ou quand on sort, quand on doit sortir, c'est un rituel, on s'habille pendant de longues minutes, tandis que c'est vrai qu'en Suisse, même s'il fait un peu froid, qu'on doit aller prendre notre bus, on enfile vaguement une veste et puis tant pis, si on doit geler un petit moment, c'est pas très grave, tandis que là il y a vraiment on met notre vie en danger, donc il faut ça nécessite tout un vraiment une autre organisation, une autre manière de percevoir aussi la nature et l'extérieur simplement l'extérieur de sa maison. J'ai pas été marqué désagréablement par le froid, mais au contraire, c'est plutôt quelque chose qui me manque des fois.
Quant à Mouron, la première chronique que tu as commandée nous assied pour un petit moment encore dans la Grande Amérique. Tu as voulu qu'on parle de Marilyn Manson. Tu l'aimes comment, Marilyn Manson ?
Bon, c'était un hasard, mais c'est comme je vais le voir ce soir tout à l'heure, là, donc je me suis dit que ce serait l'occasion, mais j'ai beaucoup écouté quand j'avais 14 ans, 15 ans, et puis ensuite un peu moins, mais toujours, j'ai suivi en tout cas tout ce qu'il faisait. Et puis c'est un musicien que j'apprécie, c'est un artiste que j'apprécie. Son dernier album m'a plu vraiment. Les précédents aussi, finalement, on crache toujours, c'est assez à la mode quand quelqu'un sort un album, de dire « ouais, alors là, enfin, c'est la renaissance », parce que je pense que c'est plus facile d'écrire un article en disant que les trucs d'avant étaient mauvais. Bon, on m'a fait le coup aussi plusieurs fois, on dit « ah, bah là, enfin, le livre qui arrive, les précédents étaient mauvais », puis en général, on disait exactement la même chose du précédent, « ah, là, enfin, un livre qui est... » Donc, moi, j'ai bien aimé, en tout cas, son précédent, celui-ci aussi, il y en a eu deux, trois qui sont un peu plus discutables dans sa carrière, mais j'ai bien envie quand même de le revoir, même si en concert, il chante comme une casserole, qu'il a l'air épuisé, qu'il a l'air de se faire chier, et puis qu'il veut en finir le plus vite possible.
L'irrévérence de Marilyn Manson, on la trouve aussi chez toi, l'irrévérence, dans tes livres d'abord, mais aussi dans tes chroniques télé maintenant sur la chaîne Be Curious. Tu as écrit aussi pour le Nouvelliste, pour le Régional.
Exact.
Ça fait partie de toi, l'irrévérence, c'est un vrai trait de caractère.
Je sais pas si ça fait partie de moi. Moi, j'aime bien. Des fois, je suis pas toujours dans un esprit de provocation. Et moi, j'aime bien aussi être tranquille chez moi, n'avoir fait de mal à personne et qu'on me fasse pas de mal. Hein. J'ai aussi ce côté bourgeois, mais c'est vrai que oui, j'aime bien. Bah, c'est-à-dire que je suis assez franc en général. Pas toujours. Alors, évidemment, s'il s'agit de séduire une fille, je peux mentir, mais ou s'il s'agit de vendre un livre. Mais ensuite, s'il s'agit de donner mon avis sur quelque chose, là, je suis un peu plus sérieux. Et puis, j'ai tendance en effet, à dire ce que je pense.
L'irrévérence de Marilyn Manson et de son nouvel album, on vous promet ça pour dans 3 minutes.
Gris. Des cultures bitacées.
C'est l'histoire des cultures bitacées, l'émission culturelle de Griffe qui invite l'auteur Quentin Mouron. Dans le deuxième chapitre, vous découvrirez Quentin Mouron qui demande à la rédaction de Griffe de parler de Marilyn Manson et de son nouvel album.
Les cultures bitacées. La chronique. Oui, celle que tu as commandée.
Marilyn Manson, le génie de la Floride, a pondu une galette. Tu l'as déjà écouté, hein, Quentin Mouron?
Oh oui, moi je l'ai écouté dès sa sortie.
Dis-nous vite ce que t'en penses.
J'ai même écouté le premier single dans l'aéroport de Los Angeles, mais je trouve que c'est très bien. Certaines paroles des fois sont un petit peu trop baroques pour moi encore, mais un petit peu trop imagées avec les anges qui tombent. On a l'impression des fois d'être dans un mauvais Lamartine, mais par contre je trouve qu'il a retrouvé un souffle et une puissance, et musicalement il y a quelque chose de vraiment intéressant qui est peut-être moins porté sur les hurlements et une provocation directe, mais qui s'écoute en tout cas très bien. Il y a un côté vieux type bourré décadent qui est en même temps un peu inquiétant et névrosé. Ça, je trouve que ça me convient tout à fait.
C'est Mike, hein, qui suit ça de près sur le web, même si quelques rumeurs entachent la réputation de Manson. Ouais, ça on le sait, lui il va passer par dessus. Mike, c'est l'heure de sa chronique.
Marilyn Manson, un nom qui fait un peu froid dans le dos comme ça, le fils de Satan, l'homme qui a jeté des poussins avant un concert et qui a obligé les gens à les écraser sinon ils commençaient pas à jouer. Le type qui s'est enlevé les côtes flottantes pour se faire des autofellations, bref, le chanteur qui pourrait être responsable de la fin dans le monde si on écoutait toutes les rumeurs sur le net. Bon, c'est vrai qu'il s'est déjà déguisé en pseudo-nazi, qu'il a arraché des pages de la Bible pendant un concert, mais quand on choisit la veine de la provoque comme cheval de bataille, il faut de temps en temps choquer la bien-pensance. Mais si vous le voulez bien, laissons donc le bonhomme de côté pour parler de son 10e et dernier album, The Pale Emperor.
My dagger and swagger are useless in the face.
Et là, le clown prévisible quitte son cirque habituel et laisse place à un autre personnage de la ménagerie plus calme, plus imprégné blues, une sorte de Johnny Cash maquillé en Pierrot diabolique. Phrase qui pourrait coller pour cet album serait sans doute l'album de la maturité, mais on va plutôt dire que cet album est une surprise, genre un gamin gothique qui reçoit un poney à Noël.
Had your heart in your gut, but for what?
fini, hein, la gorge chauffée à blanc à force d'hurler comme l'ivrogne du village sous votre fenêtre, Marilyn Manson a suivi des cours avec Robert Redford pour murmurer à l'oreille des badauds. Une voix qui a pris une leçon de dressage accéléré pour apprendre à dompter l'instrumental plutôt que se laisser bouffer par cette même instrumentale. Une absinthe vocale qui prend du goût au lieu de se noyer dans les flots musicaux. Des morceaux qui partent complètement à l'ouest à dos de Jolly Jumper, comme sur le tempo country western The Third Day of Seven Day Binge. I cannot see your name disintegrating from my lips. Ou qui se transforme en carrosse sans l'aide de la fée Carabosse pour une balade sur le titre The Mephistopheles of Los Angeles. The Pale Emperor, l'album qui forcerait sûrement Dark Vador à changer de bord pour rejoindre l'Empire Manson, et c'est là qu'on voit que quand on attaque l'Empereur, l'Empereur contre-attaque.
Griffe.
Dans 30 ans, Quentin Mouron, si on te voit comme le Marilyn Manson de la littérature...
Ce serait peut-être pas un compliment, surtout que non, je pense pas que ce soit mon, je pense pas que ce soit mon cas, parce que donc contrairement à lui qui est resté un peu figé, bon là il change encore un peu. Moi j'aime bien continuer à explorer, en tout cas pour l'instant. J'espère que ça va durer. Et puis il faut quand même dire qu'on vieillit souvent mieux dans les lettres que dans la musique, surtout quand on fait du rock et quand on a une grande gloire, qu'on a fait danser et hurler des adolescents pendant longtemps. C'est vrai qu'on a tendance à se ratatiner un peu brutalement, surtout pendant le passage 40-50 ans. Après on redevient vénérable, on a les cheveux blancs, on a un côté, il y a le côté le retour, il y a tous les retours, Deep Purple, bon eux ils parlent jamais, mais les retours, les Zeppelin, retour Pink Floyd, retour Rolling Stone, voilà exactement, Black Sabbath, donc là ça va, après on gagne un peu, mais il y a toujours ce passage à vide entre 40 et 50 ans. Pour les écrivains c'est quand même plus facile, il me semble qu'on dépend moins seulement, on dépend moins de l'image aussi, donc on est un petit peu plus, on a une vie plus longue.
On va réfléchir, on va vieillir de quelques minutes, on va grandir, on va maturer, comme on peut dire, avec un titre du nouvel album de Marilyn Manson, justement, dont on parlait tout à l'heure. Third Day of Seven Day Binge, Marilyn Manson.
Griffe. We'll be right back.
Quentin Mouron fait partie de ceux qui bossent 25 ans et un quatrième roman en vente depuis cette semaine. Trois gouttes de sang et un nuage de coke, c'est le titre du roman. Mais qui est donc ce jeune auteur roman qui séduit les éditeurs parisiens? C'est la grande question posée par nos petites mains.
Griffes. Les culturbitacées.
D'abord, Quentin Mouron, une question qui me tracasse. Pour publier quatre romans, on en écrit combien?
On en écrit quatre.
Quatre bons?
Oui, quatre, voilà, exactement. Donc, c'est pas comme un roman, c'est un travail de longue haleine. Donc, si on sent qu'on va dans le mur, on s'arrête ou on redirige. C'est pas comme un, je sais pas comment dire, mais c'est pas comme une chanson. On l'écrit en entier, ben, ça nous prend deux, trois jours. Parfois, on se dit, ouais, mais c'est de la merde, je la balance, quoi. Il y a pas de chute. Alors, il y a après des coupures. Il y a des phases B, j'imagine, de mes livres qu'on peut retrouver. Il y a certains débuts de romans que j'ai abandonnés, mais j'écris jamais un livre en me disant, c'est quand même un an, deux ans de travail. Je vais pas me travailler deux ans sur un truc et me dire, mais c'est mauvais. Ou alors, si je me dis, c'est vraiment grave, mais j'arrive quand même à avoir un tout petit peu de recul par rapport à ce que je fais pour voir au fil des chapitres comment ça évolue. Là, je suis en train de travailler sur deux romans là, à la fois. C'est la première fois que ça m'arrive. Peut-être que je vais en laisser tomber un ou faire des coupures, mais enfin, j'en sens très bien un. L'autre, je sais pas encore, ça va se décider ces prochaines semaines. Donc, c'est quelque chose de. C'est l'avantage peut-être du roman, c'est que ça reste une construction, même si on le fait parfois sans plan ou sans recherche préliminaire, mais ça reste une construction. Donc, on arrive au bout d'un moment à voir si l'immeuble va s'écrouler ou bien si au contraire on va pouvoir y habiter.
Quentin Mouron, on imagine souvent l'auteur de 25 ans qui, à 8 ans, 9 ans, écrivait déjà des compositions qui se faisaient remarquer par ses profs du primaire. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui, je crois que c'est un peu vrai, en plus. Mais ça colle un peu, ouais, ça colle assez. Après, j'ai plus tellement écrit depuis... disons, quand j'avais 11, 12 ans, jusqu'à 14, enfin, il y a eu une petite pause, comme ça, début de l'adolescence, puis j'ai recommencé à écrire quand j'avais 16 ans. Je sais plus, je faisais pas grand chose, enfin, je sais plus, je sortais voir mes potes, enfin, je buvais des coups, enfin, je sais pas exactement, je faisais des conneries, enfin, moi, c'est un petit moment de flottement dans l'écriture.
Comment on sait qu'on a besoin de parler de quelque chose, d'un thème en particulier, d'en faire jusqu'à un roman?
Je pense que quand on n'arrive plus à dormir à cause d'une pensée qui nous travaille, je pense que c'est déjà une bonne indication. Et puis ensuite, après, c'est pas quelque chose qu'on se dit jamais, je vais parler de tel thème, tel thème, tel thème. On crée des personnages, on crée des ambiances, des situations. On a une idée directrice, mais cette idée-là, elle vient aussi par... Ensuite, il y a des obsessions qui se greffent derrière. Donc, je n'ai pas fait exprès forcément de revenir chaque fois dans mes quatre livres sur la question du déterminisme et de la nécessité en l'abordant chaque fois de manière différente. J'avais un personnage et puis il s'est mis dans des situations qui ont reconvoqué cette notion de déterminisme. Donc, je n'ai pas fait du tout... je ne me suis pas dit, bon, là, il faut absolument qu'à telle page, toutes les 10 pages, tu parles un peu de la question de la nécessité. Enfin, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
Quels sont les sujets qui maintenant t'empêchent de dormir?
Bon, ces temps, j'ai déjà tellement peu d'heures qui me restent pour dormir que je dors très bien. Mais ça dépend de ce qui se passe dans le monde. C'est pas que des sujets abstraits qui m'intéressent. Au contraire, c'est des sujets très concrets. Ça peut être des sujets aussi politiques, aussi des questions sociales. Mais là, c'est vrai qu'il y a dans ce livre en tout cas trois thèmes qui reviennent. Il y a la solitude, d'une part, du personnage de Franck. La solitude aussi de... du shérif dans sa cellule, finalement, dans sa cellule familiale, sa cellule rangée. Il y a aussi la question du masque qui est très présente, la question de à partir de quand est-ce qu'on commence à mentir et à partir de quand est-ce qu'on arrête de se mentir, est-ce qu'on peut arrêter de se mentir. C'est les questions qu'explore Franck particulièrement, puisqu'il est tout à fait indiqué pour ça. Il est lui-même, c'est plus trop qui il est. Il a des doutes, son masque se fissure au fur et à mesure. On a quelqu'un de très froid et de très sûr de lui qui ne l'est plus du tout à la fin, puis qu'il revient juste avant la chute. Donc on a un personnage en dents de scie comme ça. Et puis on a encore il y a encore évidemment la question du déterminisme, et partant la question de la liberté. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est libre, jusqu'à quel point est-ce que les êtres sont égaux devant la liberté, est-ce que tout le monde est
d'après toi?
Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, c'est la réponse que je donne dans ce livre. Je pense qu'il y a certains... c'est presque une paraphrase de Coluche, mais je pense que certains sont plus libres que d'autres. Et ça ne tient pas forcément à un mode de vie, ça tient aussi à des... Justement, est-ce que cette liberté est circonscrite dans un déterminisme, ou est-ce qu'elle est complètement... Franck essaye et se bat contre ça, justement. Essaye de retrouver la liberté, de retrouver de la liberté partout, et de l'amener avec lui. Puis il se rend compte que, d'une part, cette liberté lui échappe chaque fois. Il ne sait plus si c'est une illusion, si c'est la réalité. Et je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant. Et ce qui n'empêche pas que, malgré ces questions-là, sont insérées dans un récit. Donc ça reste un récit à suspense, ça reste un livre, je pense, qui se lit lit de manière assez, assez facile. C'est en tout cas, à mon avis, le plus accessible de mes quatre livres.
On est loin du pamphlet, effectivement.
Oui, c'est pas ni le pamphlet, ni l'essai. Hein. Voilà, exactement. Là, je suis en train de lire George Steiner. C'est pas du tout cette idée-là. Donc là, c'est pas, voilà, il n'y a pas de vocabulaire particulier. Il n'y a pas de besoin d'un background spécial. Mais je pense que ces questions-là viennent au fil des situations. Elles viennent au fil des événements, des péripéties, des retournements de situation. Et puis, le dénouement, évidemment, très important. Le dénouement de l'intrigue, puisqu'il permet de d'éclairer l'entier de ces thématiques-là.
L'idée que le monde est rempli de gens qui aimeraient un jour publier un roman quand ils mourront, comment tu restes copain avec eux là autour de toi?
Bah, moi, je suis copain avec eux, c'est peut-être eux qui ne sont pas copains avec moi. Moi, je...
T'énerves les gens, des fois? Ta réussite oui. peut énerver?
Oui, je pense. Oui. Particulièrement, en fait, dans ce que je fais, en fait, je crois que... Enfin, c'est-à-dire dans un milieu peut-être lettré. Quand je fréquente d'autres gens, parce que j'ai recommencé à Lausanne, là, les lettres, mais quand je fréquente des gens d'autres facultés, c'est beaucoup plus facile, souvent, des gens qui sont en droit, qui sont même en économie, ou qui sont à le PFL, c'est beaucoup plus facile, en fait, parce qu'il y a... Il y a des réussites qui peuvent être différentes, il y a souvent une plus grande curiosité aussi à l'égard de ce que je fais, et puis moi j'ai aussi une curiosité par rapport à eux, donc je pense que ça se fait plus... Alors il y a des petites jalousies par contre, c'est vrai, dans un milieu plus proche, mais ce qui ne m'empêche pas d'avoir quand même une poignée de gens sur qui je peux compter, puis je n'ai pas besoin non plus de voir énormément de gens et qu'énormément de gens m'apprécient, donc j'ai horreur des grandes fêtes, moi j'aime bien les petites soirées avec quelques amis, et puis quelques amis qui ont lu parfois les premières épreuves, qui ont pu me conseiller, de qui j'écoute ce qu'ils font, puisque certains sont musiciens. Donc il y a vraiment... j'aime bien cette proximité-là. Et puis ensuite, si je devais déplaire parce que j'ai sorti un quatrième livre, et puis que ce livre semble plaire et qu'il semble être lu, je m'en fous un peu.
Il y en a un qui n'est pas oublié, non, mais un peu quand même. On ne parle pas de lui dans les récrés des collèges. C'est le surréaliste Philippe Soupeau. On va en parler avec Léonie.
Les cultures bitacées.
Quant à Mouron, l'auteur que tu as voulu qu'on parle de Philippe Soupeau, un surréaliste mort, enterré. Par contre, le surréalisme n'est pas mort. Il en reste quoi aujourd'hui pour toi, quant à Mouron?
Oui, je connais pas très bien. Enfin, à part Annie Lebrun qui écrit d'ailleurs toujours des poèmes d'inspiration surréaliste. Elle a été elle-même surréaliste dans les surréalistes tardifs, comme on dit. Mais que c'est une auteure que j'apprécie beaucoup. Mais je connais un peu plus. Moi, je connais un peu ses poèmes que j'apprécie. J'aime mieux encore. Ce qu'elle a écrit sur Sade, par exemple, ou même son regard sur la société environnante, c'est une de mes auteurs contemporains préférés. Et puis, sinon, c'est vrai que je connais pas trop les autres. Non.
Les cultures bitacées. La chronique. Oui, encore une pour toi. Gratos.
Léonie a pioché dans les archives de l'INA, de l'Institut National de l'Audiovisuel, hashtag Philippe Soupeau. Et résultat, Léonie trouve une interview de Philippe Soupeau par Bernard Pivot. On écoute.
Les cultures bitacées.
Philippe Soupeau, né près de Paris en 1897 et mort très vieux en 1990, fut à la fois poète, écrivain et journaliste. Mais il a aussi été le cofondateur du surréalisme avec un certain André Breton, dont curieusement on se souvient mieux. C'est avec lui qu'en 1919, il écrit le recueil de poésie « Les champs magnétiques », un recueil créé sur le principe de l'écriture automatique est considéré comme l'une des premières œuvres surréalistes. Le mouvement est lancé officiellement 5 ans plus tard, en 1924, mais dès 1926 déjà, Soupeau se fait exclure comme un malpropre au motif de « trop de littérature ». Quelque part, il prend lui-même ses distances à cause de la politisation progressive du courant. Voici ce qu'il en raconte en été 1980.
Quand j'ai créé avec André Breton le surréalisme, j'espérais que le surréalisme allait avoir une plus grande portée et brusquement, le surréalisme est devenu à la fois un mouvement politique, Breton est devenu trotskiste, Aragon est devenu communiste et moi je n'ai pas voulu accepter d'être d'un parti politique. Et alors, je peux considérer, si vous voulez, que cette espèce de merveilleuse expérience qu'avait été le surréalisme n'a plus été ce que j'avais voulu. Donc, j'ai raté, si vous voulez.
Mais oui, mais vous êtes resté poète.
Oui, mais enfin, vous comprenez, ce n'était plus tout de même mon ambition prodigieuse qu'avait été le surréalisme.
Mais c'était quoi l'ambition du surréalisme?
L'ambition, c'était de changer la vie.
Écarté du mouvement, Soupeau continue à écrire. La liste de ses œuvres est longue comme le bras, et même comme la jambe. Parallèlement, dès la fin des années 20, sa carrière s'oriente vers le journalisme. Il sillonne le monde avec sa femme, lui, il écrit, et elle prend des photos. Mais s'il est reconnu pour son travail, il n'est pas pour autant populaire, et il en est conscient.
Mon livre, qui est Poèmes et Poésie, qui a réuni tous mes poèmes depuis 1917, ça a attiré à très peu d'exemplaires. J'ose pas dire ça pour mon éditeur, mais enfin, très peu.
Oui, mais est-ce que vous n'en êtes pas fier, finalement?
Si, j'en suis fier. J'en suis fier, oui.
Parce que vous n'aimez pas le succès. Vous dites à un moment aussi, dans la même page, je préfère décidément un ratage comme le mien à la prostitution dont je vous épargne la description. Plutôt le silence que le trottoir.
Ah oui, ça, je suis tout à fait de cet avis. Et même, je suis même un peu gêné, si vous voulez, quand de penser que Bernard Pivot m'interroge, alors que ça va devenir, je vais devenir une vedette de la télévision.
Soupeau n'est bizarrement pas devenu une vedette de la télévision. Il fut peut-être bel et bien un surréaliste mal aimé, mais j'oserais ajouter que c'est qu'il était mal aimant. Comparant le succès au trottoir, l'intérêt du public à de la prostitution, il a certainement contribué lui-même à creuser l'oubli partiel dans lequel il repose aujourd'hui. Enfin, gageons qu'un tel personnage se satisferait très bien de cette situation.
Je ne suis pas vaniteux, mais je suis très orgueilleux. Mais ça, c'est normal.
Pourquoi c'est normal?
Parce qu'un poète doit être orgueilleux.
Pourquoi?
Parce qu'un poète est un personnage qui se considère comme un être à part. Et alors, par conséquent, il faut qu'il se mette dans sa tour d'ivoire et ne penser qu'à lui, et ne pas penser au succès. Un poète qui penserait au succès serait un mauvais poète.
Les cultures bitacées.
Quant à Mouron, toi, tu disais que tu écrivais tout seul, cloîtré, en pensant à toi, comme le veut Philippe Soupeau.
Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, des fois, je m'aère un peu entre deux, mais c'est vrai que quand j'écris vraiment, là, après, je me fais un peu plus plaisir au moment des corrections, mais quand c'est vraiment l'écriture pure, oui, je suis assez seul.
Pas du genre à écrire dans un café ou entre gardes.
Non, pas trop. Pas trop, je le fais des fois, je prends des petites notes quand je veux, mais j'aime pas trop. J'aime bien les bistrots, j'adore les bistrots, mais j'aime bien justement, il faut autre chose qu'écrire.
Être orgueilleux, c'est irrévérencieux, pourtant, toi, t'as pas l'air orgueilleux quand t'as Mouron. Qu'est-ce qui pourrait te rendre un jour orgueilleux?
Mais je crois que je suis orgueilleux, j'ai vraiment. Oui, ça dépend quelle question on me pose, mais oui, je pense que je suis orgueilleux. Ça veut pas forcément dire qu'on est arrogant. Je pense que c'était pas Philippe Soupeau est pas arrogant d'ailleurs, mais il est orgueilleux. Et je pense que d'avoir conscience de sa valeur, c'est pas être forcément c'est pas forcément malhonnête. Et au contraire, d'ailleurs, je pense que ce serait mieux plutôt que de tomber dans cette espèce de miel de la fausse modestie. Mais on voit ça très souvent. Moi, j'ai vraiment observé ça dans le milieu d'édition suisse roman. C'est un très marquant, l'espèce de fausse modestie où on fait exprès d'être le plus anonyme possible, même sur notre manière d'être, notre manière de s'habiller, notre manière de parler. Et puis, au fond, on se rend compte qu'on a un ego terrible derrière cette espèce de masque en lock, comme ça, on a un ego gigantesque. Et puis, alors, c'est cette fameuse, c'est finalement cette espèce de fameuse situation où on vous dit, mais je suis moche. Puis, jusqu'au jour, on dit, bah oui, t'es moche. Et puis là, c'est l'horreur, c'est fini, il y a une rupture terrible. Bah, c'est exactement la même chose dans la littérature. Mes livres sont pas si bien, c'est très mauvais, je suis qu'un petit écrivain. Finalement, on dit, bah oui, t'es un petit écrivain. Et là, c'est des tempêtes qui peuvent parfois durer des années.
Cette fausse modestie peut aussi naître les tourments. A non plus pas l'air d'un artiste tourmenté.
Si, je crois. Je sais pas comment on doit être un artiste tourmenté, je sais pas comment on reconnaît un artiste tourmenté, mais oui, je pense, dans le sens où j'ai toujours les sens en éveil, où je me pose énormément de questions, où j'ai pas mal d'angoisse, donc ça, je pense que oui, c'est une sorte de tourment. Après, ça veut pas forcément dire que je vais me refermer comme une coquille quand vous me parlez à la Welbeck, ou que je vais avoir l'air ou que je vais forcément vous casser la gueule parce que je sais pas, je suis de mauvaise humeur. Donc ça, c'est pas forcément ça, être tourmenté. Je pense qu'on a une image un peu américaine du tourment où faut absolument que l'artiste tourmenté se noie dans son whisky du matin au soir avec des cheveux longs et gras, et puis qu'en même temps, de temps en temps, donc je pense pas que c'est vraiment seulement ça le tourment. Je pense que ça peut prendre plusieurs sinuosités, c'est un petit peu plus subtil.
On a de la chance, on aurait pu devoir interviewer Michel Houellebecq. Au lieu de ça, on a eu Quentin Mouron.
Griffe.
Cette semaine paraît le quatrième roman de Quentin Mouron, Trois gouttes de sang et un nuage de coke, c'est le titre. Et c'est le temps d'arrêter d'en parler et d'aller le lire.
Fini. Terminé. On fait quoi maintenant?
Quentin Mouron, on va remettre l'auteur que tu es dans sa tour d'ivoire et lire ton roman noir, paru aux éditions parisiennes de La Grande Ourse, Trois gouttes de sang et un nuage de coke, je le disais. C'est rare qu'on vous donne des ordres, à vous, auditeurs des Cultures Bitacées, d'autant plus qu'on n'a pas investi notre pognon dans la maison d'édition La Grande Ourse. Mais lisez Quentin Mouron, c'est en même temps frais, acide, perturbant, doux pour les yeux, sans compter un art du récit remarquable, et une phrase qui nous laisse sans voix. Oui. Merci Quentin Mouron d'être
venu. Merci à vous de m'avoir invité.
Venu nous voir.